Vous écoutez, on lit pour vous.
Les animaux peuvent-ils apaiser notre sentiment de solitude? Un texte de Caroline Kilsdonk, paru le 2 décembre 2025 dans le magazine L'Actualité. Les chercheurs en psychologie et en santé publique se penchent depuis quelques décennies sur les effets des animaux de compagnie sur le bien-être humain. L'isolement social est aujourd'hui reconnu comme un facteur de risque associé à une augmentation de la dépression et de l'anxiété, et de nombreuses études concluent que la présence d'un animal peut atténuer les effets négatifs de la solitude, surtout chez les personnes vivant seules ou celles souffrant d'un trouble anxieux. Il s'agit donc d'une option intéressante pour les quelques 14% de Québécois qui disent ressentir toujours ou souvent un sentiment de solitude, selon l'Institut de la statistique du Québec de 2022, les deux groupes les plus touchés étant les plus jeunes, de 15 à 29 ans, et les plus âgés, 75 ans et plus. Les chiens et les chats en particulier procurent un sentiment de présence constante, une impression de réciprocité affective et une routine structurante. Promener un chien, par exemple, favorise les interactions sociales et augmente l'activité physique, en plus de donner une structure et un but à la journée. Pour certaines personnes, cela peut suffire à améliorer considérablement la qualité de vie, car la solitude ne se résume pas à l'insuffisance de contacts humains. Elle inclut également le sentiment subjectif d'être seul, incompris ou sans soutien émotionnel. Dans ce contexte, un chien qui vous accueille en remuant la queue ou un chat qui vient se blottir contre vous peut parfois avoir un effet positif. Cependant, les études soulignent aussi des limites importantes. Le bénéfice psychologique est très variable. Il dépend de la personnalité du propriétaire, de ses attentes, de sa capacité à s'occuper de l'animal, de son environnement, de l'état de santé de l'animal et de la qualité de la relation. Une adoption mal préparée peut entraîner du stress, de la culpabilité, voire un isolement accru en cas de problème de comportement, de budget insuffisant pour couvrir les coûts vétérinaires ou de contraintes de logement. Des études menées auprès de propriétaires d'animaux pendant la pandémie ont même révélé un paradoxe. Ces derniers n'avaient pas une meilleure santé mentale que les personnes sans animaux. Dans certaines études, avoir des animaux de compagnie était même associé à un moins grand bien-être. Il faut être prudent dans l'interprétation. Cette association statistique n'est pas forcément une relation de cause à effet. Pour avoir un portrait exact de la situation, il faudrait faire un suivi pendant des années auprès de personnes avec et sans animaux et tenir compte de plusieurs facteurs, par exemple, savoir comment se portaient les propriétaires d'animaux avant l'adoption. D'autres études sont donc nécessaires pour mieux comprendre le phénomène. Chose certaine, les animaux ne sont ni des outils thérapeutiques, ni des solutions miracles à la solitude. Ce sont des êtres sensibles, avec leur propre personnalité, leurs besoins, leurs limites. La relation avec eux peut être profondément bénéfique, mais elle n'est ni automatique, ni garantie. Quand l'animal devient l'enfant. Dans plusieurs sociétés occidentales, on observe un phénomène fascinant. Les chiens sont de plus en plus considérés comme des membres à part entière de la famille, parfois même comme des enfants de substitution. C'est particulièrement le cas dans les pays aux prises avec une baisse du taux de natalité, des réseaux familiaux réduits et une urbanisation croissante. Une revue théorique récente explore cette tendance du « dog parenting ». Les chiens ont divers traits morphologiques et comportementaux, grosse tête, grands yeux, comportement d'attachement, qui évoquent les nourrissons humains. Cela facilite l'émergence d'une relation d'attachement de type parental envers l'animal. Certains propriétaires souhaitent combler un vide affectif, d'autres choisissent consciemment d'avoir un chien plutôt qu'un enfant. Certains combinent les deux. Dans tous les cas, cela révèle un besoin universel d'attachement, parfois redirigé vers des espèces non humaines. Adopter un animal ou pas? Comme décider d'avoir un enfant, adopter un animal est un engagement à long terme. Un chien ou un chat peut vivre de 10 à 20 ans. Il vieillit, tombe malade, demande des soins, de l'attention, du temps. Trop d'adoptions impulsives se soldent par des retours ou des abandons pour toutes sortes de raisons. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas envisager l'adoption, mais il faut choisir le moment opportun, l'animal qui nous convient, et être prêt à assumer les bons et les moins bons côtés. Pour les personnes qui ne peuvent se tourner vers l'adoption, il existe d'autres façons de créer une relation. Être bénévole dans un refuge, devenir famille d'accueil temporaire, garder les animaux des amis et de la famille, etc. Ces formules permettent de goûter aux bienfaits du lien humain-animal sans les contraintes permanentes. Et en ce qui concerne l'adoption, il faut se rappeler que la relation et l'attachement se construisent dans le quotidien et transforment certains aspects de nos vies, parfois pour le meilleur, parfois de manière exigeante. Bien réfléchir avant de s'engager, c'est le premier acte de respect envers l'animal et envers soi-même. C'était « Les animaux peuvent-ils apaiser notre sentiment de solitude ?» un texte de Caroline Kilsdonk, paru le 2 décembre 2025 dans le magazine L'Actualité.
Halloween en mode subversion à Téhéran. Un texte de Annie Ziaé, paru le 12 novembre 2025 dans la presse. Chercheuse en résidence au Centre d'études et de relations internationales de l'Université de Montréal. Voici son texte. Alors que la liberté d'expression vacille, de l'Amérique du Nord à l'Europe, les journalistes, artistes et intellectuels sont de plus en plus souvent réduits au silence, parfois au prix de leur vie. Cette fragilité du droit de parole, le peuple iranien la connaît depuis plus d'un siècle. Dans un pays où la liberté de la presse est absente et où la censure d'État règne, s'exprimer reste un acte de courage. Pourtant, les Iraniens, écrivains, artistes, militants ou simples citoyens, continuent à inventer des espaces de respiration, souvent au péril de leur sécurité. Comme le rappelait l'avocate Nasrin Sotoudeh, la peine de mort en Iran est devenue un véritable mode de gouvernance. Depuis la mort de Mahsa Jina Amini en 2022, le mouvement Femmes, Vie, Liberté s'est mué en véritable projet de société. Dans une république islamique où la ségrégation de genre et la répression morale sont institutionnalisées, les femmes et la génération Z inventent mille manières de contourner l'interdit. L'humour, les réseaux sociaux, la créativité au quotidien. La résistance s'incarne dans les détails les plus infimes. Un voile entrouvert ou absent, malgré le code vestimentaire obligatoire, un éclat de rire dans la rue ou encore une citrouille posée sur la table d'un café. Le rire comme insoumission. À l'automne 2025, les autorités iraniennes ont une fois de plus interdit la vente de produits liés à l'Halloween, masques, citrouilles, déguisements. La Chambre iranienne des guildes a dénoncé cette fête comme une manifestation de l'invasion culturelle occidentale. Pourtant, dans les rues de Téhéran, d'Ispahan et de Shiraz, la jeunesse n'a pas renoncé à célébrer. Selon Iran Wire, plusieurs commerces ont vendu, sous le comptoir, les accessoires nécessaires à la fête, tandis que le Financial Times rapportait des soirées privées semi-clandestines. Sur Instagram et Telegram, les images se sont multipliées. Rires étouffés, visages grimés, vitrines ornées de toiles d'araignées. En Iran, même le banal devient politique. Comme le souligne le sociologue Asef Bayat dans « Life as Politics » 2010, les gestes ordinaires, rire, danser, marcher main dans la main, prennent une dimension de résistance lorsqu'ils défient un ordre moral qui prétend régir la vie intime. On rit de la mort, mais surtout, on rit du pouvoir, confiait une étudiante à Iran International. Un jeune artiste ajoutait « C'est la seule nuit où on peut être soi-même, sans masque politique ni religieux. » L'Halloween devient alors une subversion douce. Un espace symbolique d'autonomie, de créativité et d'appartenance à une culture mondiale. Ce n'est pas tant une occidentalisation qu'une mondialisation vécue à la première personne. Noël et la Saint-Valentin, les fêtes interdites du partage et de l'amour. Il en va de même pour Noël et la Saint-Valentin. Chaque hiver à Téhéran et dans d'autres grandes villes, des familles et des jeunes décorent leurs sapins, fabriquent leurs propres guirlandes, échangent des cadeaux, parfois en solidarité avec la communauté arménienne, pour qui Noël reste une fête religieuse reconnue. Cette célébration discrète traduit moins un mimétisme qu'une volonté d'ouverture au monde. Noël devient un prétexte à la beauté, à la convivialité, à la lumière, autant de choses que la jeunesse iranienne tente de se réapproprier face à un pouvoir qui cherche à effacer le sensible. La Saint-Valentin, quant à elle, se heurte à un interdit encore plus profond. Dans une société où les relations hors mariage sont qualifiées d'accouplement noir, ezdivaj isiya, par les autorités, les jeunes amoureux bravent la stigmatisation. Ils s'offrent des fleurs, des chocolats, parfois même des lettres d'amour clandestines. Dans l'Iran de la République islamique, aimer librement est devenu aussi un acte politique. Le masque et le miroir. Le paradoxe est fascinant. En se déguisant, les jeunes Iraniens se dévoilent. Le masque devient miroir. Derrière la fiction se cache une réalité sociale, le besoin vital de rire, d'aimer, de chérir, de créer, d'exister. Cette jeunesse, souvent qualifiée de trop occidentalisée, incarne en réalité une universalité profondément iranienne, celle d'un peuple poétique, curieux, inventif, qui transforme chaque interdiction en espace d'invention. Dans les cafés de Téhéran, les citrouilles de l'Halloween côtoient les verres d'Hafez ou de Frohur Farrokhzad, signe d'une culture qui ne se renie pas, mais qui se réinvente. Une mondialisation à visage iranien. Réduire ces pratiques à une imitation de l'Occident représente une erreur d'interprétation. Ce que l'on observe, c'est une appropriation, une hybridation. Les formes quotidiennes de résistance peuvent être discrètes, mais redoutablement efficaces. En Iran, la mondialisation culturelle devient un langage de liberté. Chaque déguisement, chaque guirlande, chaque masque porte un message implicite. Nous existons, nous rions, nous choisissons. Ce n'est pas l'identité iranienne que ces fêtes ébranlent, mais la propagande idéologique de la République islamique, fondée sur le contrôle du visible et la confiscation du sensible. En réinvestissant les symboles de la fête, de la couleur et de la lumière, les femmes et la jeunesse iranienne sapent les fondations d'un pouvoir qui redoute la pensée autant que la pluralité des mœurs. Peut-être y voit-on poindre une aspiration plus large, celle d'une mondialisation affranchie de ses hégémonies, fondée sur la neutralité de l'État et le respect des cultures, des croyances et des libertés. Une mondialisation où la différence ne serait plus crainte, mais reconnue comme une promesse, celle d'un monde commun éclairé par la pensée plurielle. C'était « Halloween en mode subversion à Téhéran », un texte de Agnès Ziaé, paru le 12 novembre 2025 dans la presse.
Les étudiants dénoncent le projet du gouvernement d'interdire les salles de prière. Un texte de Maura Forrest de la presse canadienne paru le 27 novembre 2025 dans Le Devoir. Alors que le gouvernement québécois apporte de nouvelles restrictions sur les pratiques religieuses, des étudiants musulmans se disent injustement visés par des mesures qui leur interdiraient de prier partout sur les campus universitaires et collégiaux. Tout au long de la journée à l'Université Concordia, des centaines d'étudiants entrent et sortent par deux portes anonymes situées au 7e étage d'un des bâtiments du campus situé au centre-ville de la métropole. Juste derrière ces portes, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes, se trouvent des salles d'ablution où ils peuvent se laver avant la prière. De là, ils passent dans l'une des deux salles de prière, une longue pièce sans fenêtre pour les hommes et un espace plus petit pour les femmes. Les étudiants musulmans disposent d'un espace de prière dédié à Concordia depuis des décennies. Certains ont choisi l'école en partie en raison de ces espaces. Mais si le gouvernement québécois adopte le nouveau projet de loi sur la laïcité, déposé jeudi à l'Assemblée législative provinciale, cette salle sera fermée dès la rentrée. Cela ressemble vraiment à une attaque personnelle contre notre communauté, a témoigné Inès Rarbeau, étudiante de première année en génie mécanique. C'est comme si nous n'étions pas les bienvenus ici. La nouvelle législation est une tentative ambitieuse d'étendre les règles de la laïcité dans la province dans les espaces publics et privés. Long chemin vers la laïcité. Le ministre de la Laïcité, Jean-François Roberge, a présenté le projet de loi comme la dernière étape d'un long parcours qui a commencé par la Révolution tranquille dans les années 1960, lorsque l'emprise de l'Église catholique sur la société québécoise a commencé à s'affaiblir. Depuis plus de 60 ans, lentement mais résolument, le Québec a déconfessionnalisé puis laïcisé démocratiquement ses institutions, puis son modèle de vivre ensemble, a-t-il soutenu. Le projet de loi 9 interdirait la prière et d'autres pratiques religieuses dans les institutions publiques, notamment les établissements d'enseignement supérieur. M. Roberge a déclaré que les institutions québécoises étaient allées trop loin dans leur accommodement des demandes des communautés religieuses. Les cégeps et les universités sont des lieux d'apprentissage et non des lieux de culte, a-t-il déclaré. Le nouveau projet de loi interdirait également la prière communautaire sur les voies publiques et dans les parcs, sauf avec l'autorisation de la municipalité. Les individus enfreignant cette interdiction s'exposeraient à des amendes pouvant atteindre 375 $, tandis que les groupes pourraient se voir infliger des amendes allant jusqu'à 1125 $. Il interdirait également le port du voile intégral, comme le niqab, pour les étudiantes des niveaux post-secondaires et étendrait l'interdiction des signes religieux aux personnes travaillant dans l'ensemble du système éducatif, des garderies aux cégeps et universités, écoles privées comprises. Ces mesures constituent un ajout notable à la première loi sur la laïcité du gouvernement de la coalition Avenir Québec, le projet de loi 21 qui a été adopté en 2019. Cette loi interdisait les symboles religieux, y compris les hijabs et les turbans, pour les employés du secteur public occupant des postes d'autorité tels que les enseignants, les policiers et les juges. Elle ne s'appliquait pas aux garderies ni aux établissements d'enseignement post-secondaire. Le projet de loi 21 fait l'objet d'une affaire historique qui sera entendue par la Cour suprême du Canada, en partie en raison de l'utilisation préventive de la clause dérogatoire par le gouvernement afin de le protéger contre les contestations constitutionnelles. La nouvelle loi invoque également la clause dérogatoire. La législation imposerait également certaines restrictions au financement public des écoles religieuses privées subventionnées dans la province. Elle stipule que les écoles ne pourront pas obtenir l'accréditation si elles enseignent la religion pendant les heures de cours ou si elles sélectionnent leurs élèves ou leur personnel sur la base de critères religieux. M. Roberge n'a pas été en mesure de préciser combien d'écoles seraient touchées par ce changement, mais a déclaré qu'elles disposeraient de 3 ans pour s'adapter avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Cependant, les salles de prière des cégeps et des universités devront fermer d'ici septembre 2026, a déclaré M. Roberge. Sami Khalifi, président de l'Association des étudiants musulmans, a expliqué que le groupe comptait plus de 5 000 étudiants. Que va-t-il arriver à ces 5 000 personnes si elles vont toutes prier un peu partout? A-t-il demandé. De nos jours, les musulmans sont pris pour cible et stigmatisés pour tout ce qu'ils font. Il soutient que la salle de prière est un lieu de rassemblement important pour la communauté musulmane, fréquentée par au moins 500 étudiants par jour, ajoutant qu'il avait lui-même choisi Concordia en raison de cet espace, qui est également ouvert aux étudiants d'autres confessions. Les musulmans visés? Mariam Laoufi, conseillère à l'association étudiante, s'est dite alarmée par le nouveau projet de loi. « En tant que Québécoise musulmane, j'ai l'impression que nous sommes de plus en plus traités comme des citoyens de seconde zone », a-t-elle dit. M. Roberge a rejeté l'idée que le projet de loi vise les musulmans, affirmant que les mêmes règles s'appliquent à tous. Néanmoins, plusieurs des nouvelles mesures semblent découler d'incidents spécifiques impliquant la communauté musulmane. L'interdiction de prier en public fait suite à des prières musulmanes organisées dans le cadre de manifestations pro-palestiniennes, notamment devant la basilique Notre-Dame de Montréal. M. Roberge a soutenu que ces prières étaient des « provocations ». le projet de loi interdirait également à quiconque de perturber une pratique religieuse dans un lieu de culte, ce qui semble avoir été inspiré par les mêmes manifestations. Une mesure distincte visant à interdire l'apparition de symboles religieux dans les communications des institutions publiques fait suite à une controverse survenue l'année dernière au sujet d'une affiche de bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal représentant une femme portant un hijab. De telles images ne seront plus autorisées. Zainab Karmali, une autre étudiante de première année à Concordia, a affirmé qu'elle passerait moins de temps sur le campus si la salle de prière était fermée. « Nous avons tellement de problèmes, je ne comprends pas pourquoi ils se concentrent autant sur celui-ci », a-t-elle dit. C'était « Des étudiants dénoncent le projet du gouvernement d'interdire les salles de prière », un texte de Maura Forrest de la presse canadienne paru le 27 novembre 2025 dans Le Devoir.
La popularité des livres numériques, un défi de taille pour les bibliothèques. Un texte de Dominique Lévesque, publié le 5 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Pour la première fois, l'empreinte numérique de livres, de musique et de magazines dans les bibliothèques de Vancouver est plus répandue que celui des versions physiques en 2024. Cet engouement est un défi important pour les bibliothèques en raison du coût des livres numériques. Les bibliothèques paient beaucoup plus cher pour les ressources numériques que les clients, explique Jenny Marsh, directrice générale de la Fondation de la Bibliothèque publique de Vancouver. Avec la popularité des collections numériques, et un coût généralement de 3 à 4 fois supérieur, le budget de la Bibliothèque publique de Vancouver est fortement touché. Les versions numériques des livres sont disponibles dans les bibliothèques depuis au moins 15 ans, mais la pandémie a accéléré la demande. Selon les rapports annuels de la Bibliothèque de Vancouver, cette demande n'a fait que croître. Les dernières données montre que le nombre de prêts numériques a augmenté de 16 % en 2024 par rapport à 2023, tandis que le nombre de prêts physiques a diminué de 3,5 % sur la même période. Les versions numériques coûtent plus cher en raison des accords de licence avec les éditeurs qui obligent les bibliothèques à allouer les documents. Les bibliothèques publiques paient l'accès au contenu numérique, soit pour une durée déterminée, soit pour un nombre de téléchargements, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas en devenir propriétaires. Selon la Bibliothèque de Vancouver, acquérir une version numérique du livre « La Dame Renard » de l'auteur Yangzi Chu lui coûte 82,47 $, mais seulement 30,36 $ pour la copie papier. Même chose pour l'ouvrage « Un avenir radieux » de Pierre Lemaître, qui lui coûtera 82,47 $ en version numérique, alors que celle en papier coûte 34,95 $. Si la popularité du numérique est un défi budgétaire pour les bibliothèques, la conséquence la plus visible pour le public est souvent de longs délais d'attente pour obtenir des copies numériques. Collection numérique en français à Vancouver. Titre 8375. Emprunt en 2024 9729. Le plus emprunté en 2024. Catégorie fiction pour adultes. Persuasion de Jane Austen. Catégorie fiction pour enfants. Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. Catégorie non-fiction pour adultes. Just Kids, de Patti Smith. Catégorie non-fiction pour enfants. Courage, de Raina Telgemeier. Source, Bibliothèque de Vancouver. Collecte de fonds. La Fondation de la Bibliothèque publique de Vancouver amasse environ 2 millions de dollars par an. Le budget annuel des bibliothèques de Vancouver est de 65 millions de dollars, dont 8,5 % sont consacrés aux collections. La grande majorité des dépenses est liée aux salaires et aux avantages sociaux, puis aux installations, et enfin aux collections. La Fondation a lancé une collecte de fonds pour amasser 100 000 $ pour financer l'acquisition de ressources numériques. Un montant qui permettra de combler le manque à gagner jusqu'à ce que les frais des publications numériques pour les bibliothèques soient modifiés ou qu'un financement provincial plus important soit accordé. Solutions politiques et de financement. En 2019, la Fédération canadienne des associations de bibliothèques a souligné que les bibliothèques publiques urbaines consacraient jusqu'à 30 % de leur budget d'acquisition de documents au contenu numérique. Elle milite pour de nouvelles politiques gouvernementales à ce sujet. Cette situation s'aggravera si le gouvernement canadien ne prend pas de mesures en identifiant des solutions politiques qui empêchent les pratiques de licence et de tarification restrictive et encouragent des pratiques commerciales équitables, a-t-elle déclaré dans une prise de position. À l'automne, l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique a également adopté une résolution demandant à la province d'augmenter sa part du financement de base des bibliothèques, la faisant passer de 14 millions de dollars pour l'ensemble des 71 réseaux de bibliothèques de la province à 30 millions de dollars. Plus de 90 % du financement des bibliothèques provient des administrations locales, a précisé l'UBCM. C'était « La popularité des livres numériques, un défi de taille pour les bibliothèques ». Un texte de Dominique Lévesque, publié le 5 novembre 2025 sur le site de Radio-Canada.